France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans France Culture. Spectacle, visite et initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Bénédicte et Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Dominique.
Est-ce que vous vous souvenez des lavandières? Il n'y a pas si longtemps, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères battaient le linge dans des lavoirs alimentés par des fontaines. Aujourd'hui, deux éléments de notre vie qui ont un riche passé commun. Les fontaines comme une ponctuation dans nos rues et le savon comme cosmétique de notre quotidien. Avec vous, Bénédicte, on va parler saponification, empâtage à chaud, exothermie. Tous ces mots sont le quotidien d'une savonnerie. Et avec vous, Isabelle, vous nous raconterez l'histoire des fontaines d'Angers. C'est donc parti pour 30 minutes ensemble.
France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Bénédicte, à deux pas de Fontevraud, cette savonnerie s'appelle Martin de Candre. Elle nous a ouvert les portes de son atelier de fabrication où se mêlent les multiples parfums créés par la maison.
Alors, sur la photo de famille de cette savonnerie, de cette petite entreprise traditionnelle, trois personnes, la mère, Hélène Strodischke, artisan savonnier parfumeur qui a appris le métier de sa propre mère, son fils Augustin qui s'initie au savoir-faire de la saponification et sa fille Marie-Louise, community manager de l'entreprise. Une famille donc entourée d'une équipe de 6 personnes. Et tout ça autour d'un pétrin, d'une spatule, des huiles végétales, de la soude caustique et ce fameux coup de main qu'il faut pratiquer longtemps pour devenir maître savonnier. Trois générations donc qui perpétuent ce procédé artisanal de l'empâtage à chaud quasiment disparu en France. Les huiles se transforment sous nos yeux comme une pâte vivante et ça nécessite une grande concentration car à tout moment, ça peut déborder et là, c'est la catastrophe. Explication avec Marie-Louise.
Et nous, donc, on va puiser tout notre savoir-faire dans le 19e, justement. On va travailler ce qu'on appelle, selon le procédé de l'empâtage à chaud. Qui a pour but, donc on fait fondre nos huiles végétales à basse température, on est autour d'une cinquantaine de degrés, comme ça, ça respecte bien, on va dire, tous les bienfaits des huiles végétales. Elles ne sont pas du tout dénaturées, parce qu'il faut savoir que le point de chauffe, c'est au moins 200 degrés hein, pour l'huile d'olive. Et après cette étape de la fonte, on va rajouter progressivement de la soude caustique. Si on vulgarise un petit peu les choses, la soude caustique, c'est le concentré des sels marins, donc c'est extrêmement acide. Évidemment, c'est un produit qui est dangereux. Il faut le manipuler avec beaucoup de précaution. Et quand on incorpore dans ces huiles végétales fondues la soude caustique, on obtient ce qu'on appelle une réaction exothermique. C'est-à-dire qu'on va avoir une montée en température qui va se faire de façon extrêmement rapide. En quelques secondes, on passe de cette cinquantaine de degrés à 80-90. Et au fur et à mesure de la transformation de ces huiles en savon, on va avoir plusieurs états de pâte. Au début, un statut un peu comme de la compote. Alors, maman parle de tapioca. Et puis après, au fur et à mesure de la cuisson, on va avoir une pâte qui va s'épaissir, qui va ressembler un petit peu à presque du fromage fondu, puis après de la pâte à choux. Tout ça est très gustatif, il faut bien reconnaître. Et puis, vous voyez, au bout de 45 minutes, on obtient un savon qui a pris beaucoup d'épaisseur, de consistance. Et ça va être à ce moment-là qu'on va rajouter, ou non d'ailleurs, les parfums. Parce qu'il faut savoir qu'ici, on est savonnier et parfumeur. On maîtrise ce double savoir-faire nous permet de tout réaliser de A jusqu'à Z. Donc on incorpore soit des résines, soit des colonnes parfumantes qui sont composées à partir d'huiles essentielles, de cire de mousse d'arbre. Tout est 100% naturel, il n'y a aucun additif ou fixateur de synthèse, tout se fait vraiment naturellement. Donc c'est pour ça que vous allez d'ailleurs observer dans la pâte à savon des espèces de marbrures, puisque vous n'allez pas avoir un aspect extrêmement lisse, parfait, comme on peut l'observer avec des savons dits chimiques, en tout cas de synthèse. Donc une fois qu'on a rajouté ou non ces fameuses colonnes parfumantes, on va ce qu'on appelle goûter le savon tout simplement, c'est-à-dire faire un test final qui va nous permettre de voir si notre pâte elle est pleinement saponifiée, s'il n'y a plus de traces de soude. Si en effet on observe sur le bout de la langue que ça picote un petit peu, ça veut dire que finalement la saponification n'est pas achevée, il va falloir prolonger un petit peu ce temps de cuisson. Si le goût est parfaitement neutre, ça veut dire que la réaction est totale. Notre savon peut être coulé dans une mise qui est un espèce de gros moule à gâteau cubique en bois dans lequel on va placer le savon et on va ensuite bien le tasser pour éviter qu'il y ait des petites bulles d'air qui s'y forment. Et après 24 heures à 48 heures de repos, on va pouvoir procéder à l'étape de la découpe qui va se faire en fait un peu comme finalement les fils à beurre. On a une table à découpe sur laquelle vous allez avoir deux passes et puis le savon comme ça pourra obtenir les formes de notre choix, des petits cubes, des savons invités, vraiment vous aurez tous les formats possibles, imaginables.
Alors, tout commence au début des années 70. Pour diversifier l'activité agricole de ce magnifique domaine de Mestré, Rosine Dauge, la mère d'Hélène Strodzichk, l'actuelle dirigeante, rachète donc les formules à un chimiste savonnier.
Et là, maman s'est dit, je vais lui proposer de lui racheter ses formules et puis je ferai faire par un laboratoire. Et il lui a tout de suite dit, Rosine, c'est pas possible parce que plus personne travaille comme moi. Donc si vous voulez absolument la qualité que je propose, il faut que je vous forme. Donc voilà, c'est venu comme ça et maman a dû travailler avec lui pas loin de 10 ans avant de bien maîtriser elle-même tout ce métier de savonnier, de parfumeur. C'est ça qui est génial, c'est qu'il a formé aux deux métiers tout de suite, et la savonnerie, donc comment on fait le savon, et la parfumerie, comment créer nos parfums qu'on intègre ensuite comme des ingrédients. En fait, j'ai un côté artiste et c'est la présentation, les emballages qui m'intéressaient. Mon grand-père maternel était relieur, avait inventé le brochage du livre industriel. Et parmi toutes les matières qu'il utilisait, il y avait les fameux papiers à la cuve. Vous savez, papier de garde, on dit aussi, qu'on trouve dans les vieux livres. Alors, maman adorait ces papiers. Et comme elle faisait des pâtes à savon marbrées, elle s'est dit, tiens, pourquoi pas reprendre ces papiers-là pour envelopper nos savons. En plus, c'est des papiers épais et comme les savons en séchant dégagent de l'humidité, le génial, c'est que les papiers restaient impeccables quand même. Ça n'altérait pas l'emballage.
Un magnifique papier marbré, en effet, acheté auprès d'une petite imprimerie familiale italienne qui partage les mêmes valeurs que l'entreprise Martin de Candre. Eh bien, l'équipe de France Culture a eu un vrai coup de cœur pour ces jolis papiers et ces savons emballés. Cette famille de savonniers, décidément, a le sens du beau et du détail. Et puis, en face de la boutique, un magnifique bâtiment du 16e, une ancienne grange d'Imière qui appartenait aux abbesses de Fontevraud. Et là, on trouve un petit musée très fourni, des affiches publicitaires d'époque que le mari d'Hélène Strodzichk collectionnait avec passion, mais aussi des déversoirs à savon, des objets curieux autour de la toilette, vraiment une belle mise en scène.
C'est très curieux parce qu'on s'est aperçu que la publicité sur le savon abordait énormément de sujets. On s'est posé même des tas de questions. Alors, par exemple, il était très souvent question du Congo dans les affiches. On se demandait pourquoi. Eh bien, ça a été le premier État, effectivement, en Afrique au moment des colonies où on a exploité les palmiers à huile. Et donc, ce qui a permis de fabriquer les premiers savons qui avaient un peu d'huile de palme. Tout d'un coup, les savonniers vont se dire, mais pourquoi pas rajouter des parfums? Au début, c'était jamais parfumé. Pourquoi ne pas mettre des produits plus ou moins traitants pour la peau? Et on voit progressivement que le savon va devenir un produit cosmétique. Et puis, alors, quand Pasteur va intervenir, il va dire attention à l'hygiène, on va se dire, mais il faut absolument sensibiliser l'opinion publique. Donc, on va utiliser la publicité sur le savon pour justement dire aux gens attention à l'hygiène. Et les pubs, il y en aura partout. Il y en aura même, par exemple, à l'école, sur les buvards, sur les protège-caillets pour inciter les enfants à faire attention, notamment au lavage des mains. On a une affiche incroyable. À l'époque, c'était Raymond Poincaré qui était président de la République en France. On le voit qui lave les mains de Marianne. Et je dis toujours, à l'époque du Covid, on aurait pu faire la même pub avec M. Macron lavant les mains de Marianne, vous voyez. C'est incroyable.
Et puis, il y a un autre produit phare de Martin de Candre qui a fait leur renommée auprès des barbiers au niveau national et international. Et on écoute Marie-Louise.
Alors, le savon rasé, c'est un produit phare chez nous depuis une bonne quinzaine d'années. On peut le constater notamment avec le grand retour du rasage traditionnel. Et on s'est fait beaucoup connaître via les blogs, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, notamment étrangères, qui mettaient en avant notre savon rasé. Alors, on l'utilise tout simplement avec un blaireau de rasage qu'on humidifie au préalable avec de l'eau chaude. Ensuite, vous passez le blaireau sur la surface du savon rasé et très vite, on va constater qu'une belle mousse va se former. L'idéal, c'est d'obtenir une mousse un peu comme une texture chantilly, qui est assez dense et vraiment très, très riche en glycérine, un côté très émollient. Et une fois qu'on a cette belle texture-là, on va la travailler à même le visage pour bien redresser les poils et favoriser la glisse des lames.
Et vous exportez ?
Alors, on exporte en effet ce produit à plus de 60% en Espagne, en Italie, aux États-Unis. C'est un produit qui est très apprécié justement par les barbershops étrangers.
Le savon s'inscrit dans une histoire très longue. Partout où il y a la trace de l'homme, il y a eu du savon. Et Martin de Candre, c'est un petit maillon dans la chaîne de l'histoire humaine.
Alors l'histoire du savon, c'est une histoire très ancienne qui remonte à au moins 2000 ans avant Jésus-Christ, puisque les premières traces que l'on a retrouvées sur le plan archéologique, c'était en Mésopotamie. Donc vous aviez en fait ce qu'on appelle une base lavante qui était utilisée à l'époque pour surtout traiter tout ce qui était textile. Et c'était davantage finalement pour nettoyer les fibres textiles plutôt que un usage corporel. Ces bases lavantes étaient composées avant tout de suif, d'origine animale. Et puis, de fil en aiguille, on a trouvé d'autres traces également en Égypte. Finalement, le savon est un des produits cosmétiques les plus anciens du monde. Après le dentifrice qui avait été inventé par les Égyptiens, justement. Donc, il y avait toujours finalement un attrait pour la propreté, le soin et l'attention au corps. Et puis finalement, on pourrait dire que l'ancêtre de du savon de Marseille, ça va être le savon d'Alep, qui a été inventé donc en Syrie, qui a été le premier finalement à ne plus utiliser ces fameux suifs animaux, puisqu'il utilisait de l'huile d'olive, de l'huile de baie de laurier. Et puis finalement, ce procédé-là du monde arabe a été importé grâce aux croisades, notamment dans le bassin méditerranéen, et qui a pris son essor là. Surtout du fait de la forte importance en huile d'olive qu'on pouvait trouver, qui a favorisé l'essor du fameux savon de Marseille. Alors, le savon de Marseille, à peu près, vous en trouvez déjà au 16e. Hein. Surtout, c'était dans les premières années, dans ces années-là, où vous aviez l'essor des premières savonneries qui ont dépassé le statut artisanal. Donc après, le savon de Marseille a été institutionnalisé sous Louis XIV. C'est son ministre Colbert qui a institutionnalisé la recette du savon de Marseille, qui spécifiait bien qu'il fallait utiliser exclusivement de l'huile d'olive à un certain pourcentage, en l'occurrence 72%. Il n'y avait plus du tout de traces d'origine animale. Et ça a permis finalement de donner un espèce de gage de qualité au savon de Marseille. Et vous avez plus finalement plein de, comment on peut dire, de contrefaçons qui pouvaient être effectuées.
Et pour finir, Marie-Louise nous explique le lien entre le savon de Martin de Candre et les savons de Marseille. Quelle est donc la recette des savons de Martin de Candre ? Un secret ou un coup de main ? Une lente évolution ?
Nous, notre savoir-faire, on le puise dans le savoir-faire des savonniers du 19e qui ont vraiment perfectionné ce fameux procédé marseillais, notamment avec toutes nos colonies qui ont permis la diversification des huiles végétales. En particulier l'huile de copra, qui est un agent moussant naturel qui a permis de donner l'onctuosité et la mousse au savon. Mais au début, c'était exclusivement réservé aux savons dits de luxe. Et finalement, tous les savons moussés à partir de l'après-guerre de 40. Donc c'est pas tout de suite, il faut attendre un certain nombre d'années. Et puis vous aviez aussi l'huile de palme qui a été considérée comme une réelle avancée dans le process au début du 19e, puisqu'elle apportait la solidité au savon. Grâce à ça, vous aviez des savons qui étaient beaucoup plus économiques, qui fondaient moins rapidement. Donc ça a permis finalement de rendre les pains lavants beaucoup plus économiques.
La maison Martin de Candre, c'est donc une référence dans le métier de la cosmétique depuis 50 ans, et surtout la perpétuation d'une fabrication artisanale naturelle qui prend le temps de maturer des produits de qualité, on l'a entendu, c'est plusieurs mois de séchage pour chaque savon. Mais vous l'avez compris, cela englobe aussi une famille, un domaine, celui de Mestré, et un esprit, tout un univers à découvrir sur place ou sur le réseau Instagram de l'entreprise, joyeusement animé par Marie-Louise Strodischk.
Merci beaucoup Bénédicte, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Je vous propose une petite pause musicale avec Quincy Jones, Fly Me to the Moon, avant de retrouver Isabelle et ses fontaines.
Let me play among the stars and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Vous êtes toujours sur Radio Campus, votre émission Franche Culture. Avec vous Isabelle, maintenant, on se replonge dans l'univers des lavandières. Après le savon, place maintenant aux fontaines.
Eh oui, visiter Angers au fil de ses fontaines, c'est voyager dans le temps. Des thermes romains aux jets d'eau, puis au système de recyclage, les fontaines témoignent de l'évolution de notre relation à l'eau. Qu'elles soient imposantes, modestes ou juste décoratives, elles nous racontent toute une histoire.
Et la fontaine du Jardin du Mail ne fait pas exception. Elle a fait l'objet d'actualité récemment parce que les jets d'eau qui alimentent son bassin sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Elle devrait néanmoins bientôt faire l'objet d'un gros chantier de restauration.
Exactement. Et pour remonter le cours de l'histoire des fontaines d'Angers, Odile Vibeau, guide conférencière indépendante qui propose des visites sous l'appellation Bulle de Culture, est avec nous. Odile Vibeau, bonjour.
Bonjour.
Alors Odile, depuis quand trouve-t-on à Angers des traces de domestication de l'eau ?
Eh bien, dès l'Antiquité romaine, Isabelle. Au 1er siècle de notre ère, les archéologues de l'INRAP, c'est-à-dire l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ont mis au jour, dans le secteur d'Écouflant, un grand complexe de captage d'eau dans les nappes phréatiques et de stockage dans un réservoir. Ils avaient déjà mis à jour un aqueduc en 2014 et en 2018, au moment de l'aménagement de la zone d'activité de Provins, donc à Écouflant, ils ont mis au jour ce complexe. Mais on en trouve aussi des traces, place du ralliement, des vestiges de thermes et même un petit balnéaire qui date, lui, du 4e siècle de notre ère et qui appartenait à une villa romaine. Il faut dire que, comme vous le savez, les Romains étaient vraiment les champions des techniques à la fois d'adduction d'eau et puis d'hygiène avec les thermes qui étaient devenus des lieux incontournables de socialisation.
Puis le Moyen-Âge a vu la construction de puits et des premières fontaines.
Oui, alors en ce qui concerne les puits, la plupart étaient privés. Ils dépendaient des habitations. Ils étaient en général situés dans les arrière-cours et parfois coupés en deux parce qu'ils étaient partagés entre deux maisons mitoyennes. On peut voir ça, par exemple, dans la cour de la maison de Loisellerie. Mais il y avait aussi les puits qui appartenaient à des communautés religieuses. Donc, la plupart de ces puits étaient privés. Et en ce qui concerne les fontaines publiques, eh bien, au XIXe siècle, on n'a quasiment que trois fontaines répertoriées côté d'Outre et trois également au centre-ville, dont la fontaine du Pied-Boulet, la plus ancienne, qui était à l'origine un puits qui a été mis au jour au moment de la démolition d'une maison du chapitre cathédral. Et c'est le duc d'Anjou Louis II qui a demandé de transformer ce puits en fontaine en 1416 pour justement qu'il soit accessible à tous.
Parce que j'imagine qu'à l'époque, on prenait surtout l'eau à la rivière.
Exactement. L'eau était tirée de la Maine et ça posait quelques problèmes de santé.
Alors, il n'y a pas d'évolution notable jusqu'au 19e siècle, pourtant la population s'accroît. Est-ce qu'on peut qualifier le 19e siècle de révolutionnaire pour l'accès à l'eau ?
Tout à fait, parce que effectivement l'eau de la Maine et même l'eau des fontaines qui dépendaient, elles, de sources n'était pas de bonne qualité. On avait donc, dans un premier temps, des vendeurs d'eau qu'on pouvait croiser sur la place du ralliement au petit matin et on pouvait faire remplir ces bouteilles à des comme on faisait remplir les bidons de lait à la ferme, à de grandes barriques qui avaient été préalablement remplies dans la Loire. Les Angevins plus fortunés n'avaient dans leur cave pas seulement du vin, mais également des grandes cuves qu'ils faisaient également remplir régulièrement par de l'eau de Loire. Et la révolution industrielle est également une révolution technique, technologique, et c'est l'apparition des machines à vapeur qui va rendre possible le raccordement de la ville d'Angers à l'eau de la Loire dans les années 1855-56.
Avant ce raccordement, les Angevins avaient des citernes aussi chez eux, tous ?
Oh non, pas tous, c'était réservé aux plus fortunés. Les autres trouvaient leur eau ou aux fontaines publiques ou directement justement dans la Maine.
Et alors, est-ce que le 19e siècle, c'est aussi le siècle de la fontaine du Mail ?
Mais justement, la fontaine du Mail est complètement liée à l'histoire du raccordement de Angers à la Loire parce que on a besoin à ce moment-là d'avoir une sorte de réservoir relais en plein cœur de ville. Et la fontaine du Mail ne va être que la partie immergée de l'iceberg. Sous cette fontaine, il y a une énorme cuve qui servait donc de réservoir et qui contenait entre 1300 mètres cubes et 2400. Donc c'était vraiment tout à fait conséquent. Et c'est le fait de l'aménagement de ce réservoir qui va ensuite être habillé par une fontaine qui est exposée à la lors de l'exposition universelle de Paris en 1855. Et donc, comme c'est le moment de ce raccordement, eh bien, les édiles de Angers vont tomber en extase devant ce modèle de fontaine du Val d'Aune et en commander une pour habiller la fontaine le réservoir du ralliement et la transformer en fontaine.
Du jardin du Mail.
Du jardin du Mail, pardon.
D'accord. Et c'était la première fontaine décorative à jet d'eau à Angers ?
Oui, tout à fait, parce que en fait, les fontaines décoratives vont venir dans un second temps. Pour avoir des fontaines décoratives, il faut que l'eau ne soit plus un enjeu complètement indispensable et de survie. C'était le cas à Versailles, où voilà, les fontaines, les jets d'eau jaillissaient de partout. Pour le reste de la France et de la population, ça va venir un petit peu au 19e, effectivement, avec les jets d'eau de cette fontaine du Mail.
Et à Paris, on avait des fontaines Wallace. Est-ce que c'était le cas aussi à Angers ?
Alors, la fontaine Wallace que l'on peut voir sur l'esplanade du Port-Ligny à Angers y apparaît en 1981. Mais les fontaines Wallace, en général, ont une histoire particulièrement intéressante, puisque elles doivent leur nom à un lord anglais, Sir Richard Wallace, qui habitait à Paris à la fin du 19e siècle et notamment au moment de la guerre de 1870 avec la Prusse. Et ce roi-là s'est particulièrement ému par la mauvaise qualité de l'eau qui oblige la plupart des Parisiens à consommer de l'alcool pour diminuer les effets néfastes. Avec évidemment tout, par contre, les effets dus à la consommation d'alcool qui, eux, sont largement aussi mauvais. Donc, il va inventer un des premiers partenariats public-privés, c'est-à-dire qu'il va financer la fabrication de fontaines, dessinées d'ailleurs par un ingénieur nantais, Le Bourg, sur les indications de Sir Wallace, qui est fan de la Renaissance et notamment de la Fontaine des Innocents. Et ces fontaines vont être raccordées au réseau d'eau par la ville de Paris.
Donc ça veut dire que Wallace avait quand même une fibre sociale assez conséquente.
Oui, tout à fait. Et ça nous permet d'évoquer justement cet aspect social de santé publique qui concerne à la fois l'eau potable, mais aussi le côté hygiénique. Au début du XXe siècle à Angers, on va voir se construire plusieurs établissements de bains-douches, notamment un en bas de la montée Saint-Maurice et puis un autre rue Florent-Cornillot dans le quartier de la Chalouère.
Alors, à partir des années 1970, je précise, les fontaines festives se développent au Dyle, mais qu'en est-il à Angers ?
Mais c'est vrai que dans les années 70, on considère que comme l'eau tombe du ciel, c'est une ressource naturelle illimitée et inépuisable. Et donc Angers va suivre le mouvement et voir se multiplier ces fontaines d'agrément. On a en 1974 l'installation de la fameuse Rose des Sables, initialement place du ralliement, avant qu'elle ne soit finalement déplacée place François Mitterrand. On a également en 1985 la fontaine avec la Vénus à la gare, ou en 2001 la fontaine Aquafamilia boulevard Yolande d'Aragon qui elle a été déplacée avec l'arrivée du tramway dans ce côté d'Outre. Et bien d'autres un petit peu partout dans la ville, bien sûr.
Alors on peut dire aussi, je pense, Odile, que au début du 20e siècle, il y avait beaucoup de fontaines à Angers et que peu à peu, évidemment, leur nombre diminue. On peut expliquer pourquoi ?
Alors, effectivement, dans un premier temps, au moment du raccordement à l'eau de Loire, on a multiplié le nombre de fontaines parce qu'il était plus facile de permettre cet accès à l'eau. Ensuite, on l'a finalement diminué pour contraindre les gens à prendre un abonnement, parce que le raccordement à l'eau potable stipulait quand même de payer un abonnement, et donc pour favoriser et augmenter surtout le nombre d'abonnements, parce que ça a pris quasiment un siècle pour que que l'eau arrive au robinet de tous les appartements et qu'il y ait des pièces d'eau. Donc on a dans un deuxième temps diminué le nombre de fontaines.
Et alors maintenant, nous sommes au XXIe siècle, avec une prise de conscience que l'eau est devenue une denrée rare. Est-ce que les fontaines à Angers ont changé ?
Eh bien oui, tout à fait. Et la première des choses, c'est qu'en fait, on en a assez peu qui soient en fonctionnement en été. En hiver, c'est normal, mais en été, il y en a assez peu parce qu'on ne met en fonctionnement que les fontaines qui recyclent l'eau et donc qui sont en circuit fermé. Et donc, ça demande un aménagement et toutes les fontaines un peu anciennes n'ont pas été conçues de cette façon. Et puis, on assiste également à un redéveloppement des fontaines bornes, tout simplement pour inciter les gens à remplir leurs gourdes. Et de cette façon, lutter contre la multiplication des bouteilles plastiques. Vous avez par exemple des fontaines de ce type au bas de la montée Saint-Maurice, à côté justement de l'aménagement des nouveaux jets d'eau, et sur l'esplanade Cœur de Maine, et puis à Segré, à Baugé et dans tout le département. On a multiplié depuis quelques années ces bornes pour remplir les gourdes.
Oui, et puis j'ajouterais aussi que depuis 2017, on a un miroir d'eau à Angers qui permet aux enfants de jouer l'été par temps chaud. Mais écoutez, je vous remercie, Odile.
Merci à toutes les deux. Merci aussi surtout à Odile Vibo. On vous retrouve sur le site de l'Office de tourisme Destination Angers, sur vos pages Facebook et Instagram dans les bulles de culture de la guide Odile. C'est la fin de ce Franche Culture. C'était 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Étienne pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h. Et bien sûr, en podcast. Car n'oubliez pas, la curiosité se partage sur tous les réseaux sans modération. Je souhaite une très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.